France Inter.
J'ai vite compris que c'était rare les petites filles qui aimaient les batailles navales et je me suis toujours montrée discrète sur mon savoir maritime et militaire. Il était inexplicable, ne s'accompagnait pas d'un tempérament violent ni d'une érudition utilitaire en vue d'un quelconque profit. C'était un savoir autodidacte, accumulé sans raison, ni intérêt, ni but. Il ne convenait pas à une enfant des années 40 ni à la femme que je suis devenue. Aujourd'hui encore, c'est un savoir caché. Il me tient compagnie. Teresa Crémisi est ce soir notre invitée à l'occasion de la publication en livre de poche de son livre La Triomphante. Mais comme chaque soir, et pour vous Teresa, nous avons une exclusivité qui je pense va vous plaire. C'est Diana Krall, Love, exclusivité avant la sortie de l'album Turn Up The Quiet, ça sera le 5 mai.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. And love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. More than everyone that Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me, and love was made for me, and love was made for me, and you.
Puisqu'on parle d'amour et que Diana Krall vient de si magnifiquement le chanter, cet amour, c'était quoi le premier amour? C'était l'amour de la lumière?
C'était l'amour de la nature, je crois. J'ai été très très vite fascinée par les éléments, le vent, l'air marin, les odeurs des ports. Ça m'a marqué. Donc quelque chose qui passait par les sens.
Et le bonheur de vivre?
Je l'ai appelé comme ça après. Je ne sais pas si c'est ça, le bonheur de vivre. Bonheur de vivre est, me semble quelque chose de un don que je n'avais pas naturellement. Non, je pense que c'était plutôt l'envie de vivre que le bonheur de vivre.
Pourtant, dans les premières pages de ce livre, qui n'est peut-être pas un livre autobiographique, qui est peut-être finalement un roman qui s'intitule La Triomphante, on le lit comme si c'était le récit de votre vie, celle qu'on ne connaît pas. Nous qui travaillons dans le monde de l'édition, dans le monde de la radio, dans le monde des livres, on vous connaît depuis une bonne trentaine d'années comme éditrice ô combien importante, ayant assumé des fonctions de direction chez Gallimard, puis ensuite ayant dirigé Flammarion et continuant à travailler dans le monde de l'édition et du cinéma, on y reviendra tout à l'heure. Mais on ne savait pas très bien qui vous étiez, Teresa Crémisi. Sur vous couraient des tas d'histoires. On disait, elle connaît beaucoup de langues, elle vient d'ailleurs. Et puis, en lisant ce livre, évidemment, on s'est dit, on va connaître enfin ses origines. Eh bien non, parce que les origines sont tellement métissées. On vous croyait italienne, vous ne l'êtes pas.
Oh, écoutez, non, c'est pas une autobiographie. C'est un autoportrait, voilà. Si je devais trouver une définition, c'est plutôt un autoportrait, c'est-à-dire la biographie ne correspond pas. D'ailleurs, j'ai donné à ma narratrice une dizaine d'années de plus que moi, ce qui m'a donné une certaine liberté pour raconter des choses que je n'ai pas vues. Et puis, en revanche, elle a mes goûts, elle a mes dégoûts, elle a quelque chose de moi du côté de l'énergie et peut-être l'envie de rire sur les malheurs qui est très fort en moi. Je suis une ricaneuse.
Pas vraiment, je dirais, une ricaneuse. Je crois que vous êtes plutôt quelqu'un qui arrivait à être une sorte de guerrière devant les coups du sort du destin que vous n'acceptez jamais. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut lire La Triomphante. Et notamment la petite fille qui, dans cette Alexandrie où elle a commencé ses premières années, tirait le maximum de bonheur des instants qu'elle passait avec son père et avec sa mère. Alors de cette mère, nous allons parler, Teresa Crémisi, nous allons écouter une archive de Pablo Picasso. Pablo Picasso qui va parler de ses œuvres dans un documentaire qui s'intitule Picasso, l'inventeur d'une vie. Vous allez comprendre pourquoi on écoute la voix de Pablo Picasso.
Si vous deviez choisir vous-même l'époque, la peinture, la toile qui devrait vous survivre, quelle serait cette toile, quelle serait cette période?
Je ne sais pas, c'est difficile. C'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons, que c'est très difficile. Au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas? C'était une grande catastrophe, même le commencement de beaucoup d'autres que nous avons suivi, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est... Au fond, ce sont des mémoires qu'on s'écrit soi-même, des cahiers.
Ah, je l'adore. Je trouve que parler à un créateur comme Picasso et entendre dire « mais non, c'est pas ça, mais c'est peut-être ça, mais je ne sais pas ce que c'est ». Et puis au fond, c'est des choses qu'on écrit pour soi-même, c'est des autobiographies. Enfin, cerner une telle force de la nature... Et l'entendre parler comme tout le monde, ça m'enchante. Vous savez, je l'ai rencontré. J'étais une enfant. à Valoris. Et ma mère allait faire un peu de poterie. Tout le monde faisait de la poterie dans les années 50. Et elle apportait des vases ou des plats qu'il fallait mettre dans le four. Et j'ai vu arriver en sandales, avec un short très lâche, Picasso, qui venait voir sa fournée du jour. Et je parlais avec tout le monde, je crois qu'il m'a même caressé la tête. Moi, ça m'a fait beaucoup rire, parce que ses grandes jambes poilues, un peu trapues, son short sans slip dessous, c'était assez drôle. Oui. J'ai un souvenir très hilarant.
Alors, votre mère était sculptrice, votre père était une sorte de rêveur qui, de temps en temps, aimait bien aller au casino. Oui, un homme d'affaires un peu rêveur.
Un homme d'affaires qui était très peu doué pour faire des affaires. Enfin, d'ailleurs, il n'a jamais gagné d'argent. Je ne sais pas, on a vécu assez bien, mais voilà, il n'était pas très doué pour les affaires, mais il en faisait.
Alors, de temps en temps, ils vous oubliaient parce qu'ils allaient jouer au casino. Vous attendiez sur le muret. C'était pas très grave, tout ça, manifestement.
Non, non. Et je dois dire que c'était une éducation pas très stricte. Hein. Et d'ailleurs, ils se plaignaient auprès de leurs amis d'avoir une enfant sérieuse. Et quand je partais travailler, faire mes devoirs, j'entendais « Elle travaille encore !» Et avec des grands soupirs, comme s'ils avaient une catastrophe familiale, cette petite qui était sérieuse. Et donc j'ai appris aussi à travailler en me cachant.
En tout cas, il croyait en vous, votre père.
Le père de la narratrice, oui, croit en la narratrice. Moi, j'ai un souvenir plus flou de son rapport à moi. Je crois qu'il faisait confiance à ma mère et ma mère faisait confiance au destin.
En tout cas, ce qui est sûr, Teresa Crémisi, est sans doute vrai, c'est que vous avez quitté l'Égypte pour vous retrouver de l'autre côté de la Méditerranée. Et là, ont commencé des années d'exil parce que vos parents ne savaient pas très bien où se fixer. Et là, bien d'abord, ça a été la rencontre avec l'Italie. Et vous qui portez un nom italien, vous êtes rendu compte que cette langue, eh bien, vous ne la possédiez pas.
Non seulement je la possédais pas, mais je la parlais très très mal. Enfin, je l'avais appris.
Vous parliez l'arabe et le grec.
Oui, je la parlais très très mal. Ma mère ne la parlait presque pas. Donc, il a fallu apprendre. Vous savez, les enfants, c'est costaud. Ils apprennent, ils s'adaptent. Ce sont les interprètes du monde quand les parents perdent pied. Les enfants s'adaptent.
En tout cas, dans cet exil forcé, avec cette absence de repères, on comprend, quand on vous lit, que cette petite fille devenant jeune fille avait une seule certitude, c'est que les livres pouvaient être des repères, pouvaient être des amis, et que les études, c'était une possibilité de se construire.
J'avais un respect énorme, j'ai eu tout de suite un respect énorme pour les artistes. J'ai vite compris que j'étais pas douée pour les arts plastiques, peindre, dessiner comme ma mère, c'était impossible. Et les amis de ma mère étaient stupéfiants. Et en revanche, les artistes écrivains me semblaient porteurs d'un don magnifique, incommensurablement beau, et j'étais pleine d'admiration. C'est pour ça que j'ai été éditeur. J'ai voulu très vite être éditeur. Je me sentais incapable d'écrire moi-même, mais être au plus proche d'un artiste, d'un créateur, d'un écrivain, me semblait le plus beau métier du monde.
Nous allons écouter la voix de Pier Paolo Pasolini qui va commenter son engagement politique. C'est une archive INA du 15 novembre 1966. C'est au micro de André Labarthe.
Vous m'avez souvent dit, en parlant d'un point de vue marxiste, vous m'avez dit « je suis marxiste ». Vous n'avez jamais dit « je suis communiste ». Est-ce que vous faites une différence?
Oui, la différence c'est que je n'ai pas, comme dit, inscrit au Parti communiste. Je n'aime pas d'être indépendant. J'ai des textes l'intellectuel qui dit « je suis indépendant ». Mais je suis obligé de le dire. Et alors j'accepte l'idéologie marxiste dans la diagnose de la réalité sociale et en grande partie dans les perspectives de, dans le, l'idée de solution des problèmes sociaux. Mais je ne, comme dit, condivido.
Je ne partage.
Je ne partage pas complètement la politique du Parti communiste italien, aussi soviétique, etc.
Alors, je sais que vous avez connu Pier Paolo Pasolini, que vous avez édité certains de ses textes, Teresa Crimisi, que vous avez publié Laura Betti, qui était sa compagne et son exécutrice testamentaire. Je sais aussi que dans ce livre, La Triomphante, vous parlez de ces années d'ébullition en Italie. Qu'a représenté pour vous Pasolini ?
Alors j'ai connu Pasolini, il était déjà une star absolue, hein. C'est, il avait déjà publié des livres qui avaient marqué, il était déjà un grand cinéaste, il avait déjà eu son histoire tumultueuse avec la Callas qui était quelque chose, hein. C'était, ça a défrayé la chronique, je l'ai même vu avec la Callas qui le regardait d'un air enamouré. Donc moi j'ai publié, j'ai été parmi ceux qui l'ont aidé à publier ses l'ensemble de ses poèmes, et c'était à la fin de sa vie.
Et c'était un immense poète.
C'était un immense poète, je pense que c'est ce qui reste. Il croyait qu'il était romancier ou cinéaste, je pense que ce qui reste, c'est sa poésie et son engagement politique. Puisqu'il avait un don pour la pédagogie, et qu'il ressentait de manière souffroteuse le mal du monde. C'était très impressionnant. Ce qui pouvait arriver de mal le faisait se recroviller sur une chaise. Il souffrait et il avait envie de s'engager. Et pourtant, c'était un être qui avait une double, plutôt une triple vie, une quadruple vie, et dont une vie cachée extrêmement dangereuse. Il défiait le destin tous les jours.
Alors, on ne sait toujours pas quelles sont les circonstances réelles de sa tragique disparition, si vous...
On
vous...
peut les imaginer. Hein, il défiait la mort. Et un jour, la mort est arrivée sous le regard d'un jeune garçon, probablement humilié.
En tout cas, vous évoquez dans ce livre La Triomphante, Teresa Crimisi, les années italiennes où, après les révolutions qui sont venues, frapper d'abord l'Amérique et puis ensuite certains pays européens, elles ont tourné au tragique en Italie. Comment les avez-vous perçues ?
C'était tragique tous les jours et ça a duré très longtemps. Ça n'a pas du tout été le 68 comme en France, une explosion presque joyeuse et pleine d'énergie. Ça a été une espèce de cancer qui a duré plusieurs années et dont beaucoup de drames ne seront jamais ni expliqués ni compris. Mais tous mes camarades était convaincu que le monde de nouveau allait naître de nos contorsions. Tous sauf moi. Il faut dire, j'avais déjà vu des contorsions de ce genre. Mes parents surtout en avaient été victimes.
Et dans quelles
circonstances ?
J'étais sceptique.
C'est-à-dire, leur exil était déjà arrivé sous la forme d'une révolution, incomprise ou comprise, mais ils avaient vu leur vie cassée en deux. Moi, j'étais plutôt perplexe sur l'avenir radieux qui nous attendait. Mais je faisais semblant d'y participer quand même.
Donc, vous n'avez jamais pensé, comme certaines étudiantes intellectuelles ô combien cultivées, qui se sont engagées dans ces idéaux pour la Révolution et qui n'ont pas hésité du tout à s'engager dans ce qu'on a appelé la lutte armée pour ensuite se transformer en Brigade Rouge ?
Non seulement je n'ai pas été attirée par ça, mais cela me faisait peur et même horreur. Sauf que, là vous me comprenez sûrement, il était très difficile de le dire. Le dire voulait dire être classée comme une fille de famille, une jeune fille bien élevée, etc. Ce que j'étais pas d'ailleurs, puisque ils connaissaient pas ma vie ni mes parents. Mais c'était me mettre dans une case... la jeune bourgeoise. Et ça, c'était fort de café, j'en voulais pas. Et donc j'ai mollement écouté tout ce qui se disait au cours de ces assemblées interminables qui devaient changer le monde, la vie, et qui ont fini par une succession d'attentats, de mensonges politiques, de crimes incompréhensibles et d'une récession de la liberté. Donc oui, ça a été une période... C'est une période assez triste, Mais j'étais jeune et c'est allé quand même.
Vous étiez jeune, vous avez décidé de devenir éditrice très jeune, vous êtes rentrée dans une maison d'édition. Vous savez, Teresa Crémisi, dans cette émission, on demande à des personnes qui connaissent un peu l'itinéraire de l'invité de parler de cet invité. En l'occurrence, vous aurez droit à deux avis. Le premier, vous allez l'entendre, parce que vous avez une vie tellement aventureuse, il fallait au moins deux personnes pour parler de vous.
Je croyais que vous allez dire une vie si longue.
Non, non, une vie si aventureuse. Donc, premier avis, quelqu'un qui vous a connu quand vous étiez très jeune, Teresa Crémisi, et qui était en Italie. Si, vous allez voir, il est éditeur comme vous, il est écrivain comme vous, il s'appelle Roberto Calasso, écoutez-le.
Je l'ai connu avec Maria Livia et immédiatement j'ai vu que c'était quelqu'un de plutôt rare dans le paysage de l'éditorial italien. Elle travaillait à ce moment-là sur plusieurs choses chez Garzanti, qui allaient d'un côté très pratique de la production à une collection de ce qu'on appelait les grandi libri, qui était une collection de classiques où il a même traduit des choses importantes, comme Manon Lescaut, par exemple. Et heureusement, elle est cosmopolite de naissance, c'est-à-dire elle n'appartient particulièrement ni à l'Italie, ni à la France, ni à Alexandrie. Et c'est très bien pour elle. Je trouve que ces notions-là de français italien comme ça ne s'appliquent pas dans son cas. Enfin, partout, elle a laissé une marque très bonne, avant tout chez Garzanti, puis chez Gallimard, dans des années très difficiles pour Gallimard, où ils ont réussi à plus ou moins à sauver l'ensemble, et puis chez Flammarion aussi. Ça a donné une nouvelle, ça a relancé un peu une vieille maison d'édition française, très noble, mais qui avait besoin de quelque chose de nouveau. Je suis très heureux très heureux de l'avoir maintenant comme écrivain. Et je crois que son premier livre était très bien bâti et qui marche très bien dans toutes ses parties. Et naturellement, ça, ce qui se pose toujours, c'est la question de comment continuer. Mais elle va se la poser et la résoudre facilement, je crois.
Oh, ça fait vachement plaisir. Je ne savais pas que vous alliez chercher dans le passé, je ne savais pas que Roberto savait tant de choses lui aussi.
Donc traductrice de Manon Lescaut, c'est pas mal, Teresa Crémisi.
J'ai traduit Manon Lescaut, Benjamin Constant, l'Adolphe et les Cahiers Rouges, et puis Salammbô de Flaubert, qui m'a occupée des nuits et des nuits, parce que c'était extrêmement difficile à faire. Je ne sais pas pourquoi je l'ai traduit, mais voilà, je l'ai fait. Et bon, ça me fait très très plaisir.
Alors quand vous êtes arrivée... Mais il y en a d'autres. Quand vous êtes arrivé en France, vous racontez, en tout cas, je pense que là, ce sont des fragments de vous qui correspondent bien à la réalité de votre personne. Dans La Triomphante, vous racontez que vous pensiez que vous maîtrisiez le français, puisque justement, vous traduisiez le français. Et puis, vous avez un paragraphe absolument hilarant dans votre livre où vous dites que le français est très très codé et que dans le milieu dans lequel vous avez à évoluer, alors je vais vous citer, je me souviens du bouche à oreille omniprésent dans mon métier, du pied que tout le monde cherchait à prendre au début des années 80, des slogans de publicité détournés si drôles à condition d'avoir vu et revu les courts films à la télé, des hannetons qui ne devaient surtout pas piquer. Et bref, il a fallu se faire un chemin dans la langue française.
Ah, c'était terrible. Ça, c'est totalement autobiographique, ce passage. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, je n'avais pas prévu que j'allais, disons, une phrase sur 10, c'est quand même beaucoup, essayer de la capter par le sens et de faire semblant que tout allait bien et de répondre comme il fallait. Bon, tout ça demandait un tel exercice que le soir, dans ma chambre d'hôtel, je n'arrivais pas à m'endormir parce que je me rasseyais sur mon lit, je disais, ça y est, j'ai compris ce qu'on m'a dit ce matin. Et donc, une fois que j'avais compris, je me rendormais. Mais c'est quand même été une drôle d'expérience.
Mais très pourquoi vous êtes partie, Teresa Cremisi, de l'Italie? Vous aviez un métier, vous aviez l'assurance de pouvoir continuer une vie douillette, bourgeoise, pour prendre tous les risques sans connaître personne dans ce Paris qui ne vous attendait pas?
C'était une folie. C'était une folie. Je n'ai pas une réponse précise autre que peut-être l'amour de ce pays que j'avais mythifié, fantasmé longtemps, de Paris et de Gallimard. Donc les trois choses me semblaient, quand Antoine Gallimard m'a fait cette proposition, je dois dire extravagante, dont je lui suis encore si reconnaissante, j'ai dit partons. Puis j'ai eu peur parce que j'avais des enfants et puis je suis partie. Voilà. Je n'ai pas d'autre explication. Je dois dire que c'était une folie et ça pouvait finir très très mal. Mais bon, j'aurais survécu.
Vous n'avez pas oublié d'être italienne puisque vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez France Inter, vous écoutez le choix musical de Teresa Cremisi. Devinez ce que c'est, Mozart Don Giovanni. Orchestre national de l'Opéra de Paris, direction Laurine Mazel, José Van Damme.
C'est merveilleux. J'adore le libretto de Da Ponte. Il y a des subtilités extraordinaires parce que il dit andiamo, andiamo, et il est prêt à l'entraîner. Puis pour la consoler, il lui dit, vedi, non è lontano, c'est pas trop loin. Et elle dit, vorrei et non vorrei. Et puis à la fin, ça y est, elle est partie, elle est prête à partir. Mais elle est sauvée à la dernière minute. Enfin, c'est merveilleux. C'est absolument merveilleux. Au fond, c'est une petite sœur de Manon Lescaut. Ce sont ces jeunes femmes qui peuvent être des proies et qui peuvent finir très mal, pour lesquelles j'ai une immense sympathie et compassion.
Alors on dit souvent, je ne sais pas si c'est juste, que un texte, quand il se tient et qu'il se retient, c'est qu'il y a à l'intérieur de ce texte une certaine musique. Vous, qui êtes l'éditrice d'écrivains majeurs, français et étrangers, depuis des décennies, est-ce que vous pensez que cette comparaison de la musique s'applique à la littérature?
Alors, je pense qu'il y a deux choses. Si vous me dites musical, qu'un bon texte, c'est aussi un phrasé, des phrases musicales, je suis absolument contre. Un texte peut ne pas être être un grand texte, ne pas être musical du tout. À la limite, peut même être écrit de manière un peu gauche. Je ne crois pas à la musicalité, entre guillemets. Si vous parlez de musique comme construction géométrique, eh bien, ça aide dans un roman, dans une composition, ça aide. Mais j'aime pas trop le goût du musical dans la littérature. J'y crois pas trop.
Ça veut dire quoi, éditer, au fond? Ça veut dire obtenir et tisser un lien de confiance avec quelqu'un qui en a encore moins que vous?
Éditer, c'est beaucoup de métiers à la fois, puisque vous accompagnez un écrivain, un artiste, ou un grand essayiste, ou un petit essayiste. Enfin, je fais pas de différence là-dessus, mais vous vous adaptez. Vous pouvez intervenir, mais vous pouvez juste seulement écouter. Donc, éditer, c'est s'adapter et créer la situation pour que l'écrivain soit au mieux de son art.
Alors autrefois, il y avait des correspondances et les éditions Gallimard et les éditions Flammarion continuent, pour notre plus grande joie, de les rééditer, voire de les redécouvrir ou de les découvrir. Maintenant, les éditeurs et les auteurs s'envoient des mails. C'est plus succinct, c'est plus factuel. Voici ce que ça donne entre vous et un de vos auteurs chéris. Nous sommes exactement le dimanche 12 septembre 2010, 13h15, de Teresa Crémisi à Michel Houellebecq. Objet, deux points, nous. Michel, cher Michel, comment allez-vous? J'ai besoin de le savoir de temps en temps. Votre départ me rend triste. Les nouvelles sont bonnes. Je vous embrasse. Ça suffit.
Oh, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a beaucoup de blagues dans cette correspondance. Il y a beaucoup d'humour, surtout de sa part. Et c'est vrai que on entretient une correspondance depuis 2006, je crois. Donc ça fait presque 12 ans.
Mais quand on est une star comme Michel Houellebecq, il faut que l'éditrice, en l'occurrence vous, Teresa, vous preniez des nouvelles de vous et de Clément. Et Clément, c'est le chien de Michel Houellebecq.
Mais je prends des nouvelles de manière amicale, parce que il arrive qu'on tisse des liens d'amitié forts avec des auteurs. Et que, à vrai dire, le travail passe par là, se mélange par tout ça. Il y a un véritable intérêt pour la personne. Et je l'ai prouve pour Michel Houellebecq, parce que rien de ce qu'il dit ou écrit, même les choses qui semblent anodines, rien n'est anodin. Et j'ai rarement vu autant de précision où il ne dit rien par hasard. Tout est à un sens. C'est pas du tout mon cas, mais je suis très admirative.
Alors on va écouter Michel Houellebecq qui va parler de sa vie d'écrivain, Archivina, du 12 novembre 2011. Et j'en profite pour dire que vous avez participé à un numéro spécial de la revue Lerne. qui s'appelle tout simplement Houellebecq et qui est vraiment un numéro exceptionnel. On écoute la voix de Michel Houellebecq.
Je vous intrigue beaucoup. Moi, j'ai l'impression d'être... d'avoir une vie assez plate et assez pauvre, enfin, comme la plupart des gens qui écrivent des livres, quoi. J'ai une vie intérieure très bouillonnante, mais une vie extérieure assez morne, finalement.
En même temps, vous êtes quelqu'un qui avait les yeux grands ouverts sur le monde, je veux dire.
Oui, oui, tout le temps. Tout le temps.
Avec une précision terriblement...
Je suis assez fier de ça, oui.
Descriptive.
C'est une de mes qualités. C'est ma grande qualité, peut-être. Oui, j'ai des yeux, et je sais m'en servir, oui. Quand j'ai des éléments de réel plus riches, je les utilise. Mais je ne les recherche pas a priori, quoi. Je ne fais pas d'enquête.
C'est merveilleux. C'est tellement lui. C'est drôle parce que, enfin, à vrai dire, il a un sens de l'humour comme j'ai rarement vu. Mais c'est vrai qu'il a des yeux et que il voit passer quelqu'un avec un. Il est un peu endormi à la terrasse d'un café. Il voit passer quelqu'un avec des chaussures bizarres et immédiatement, je sais qu'il a capté que ça va se ranger dans un coin de sa tête, que ça va servir à quelque chose. Mais moi-même, de tous les sens, celui que j'ai le plus développé, c'est l'œil. Et donc, c'est un vrai plaisir de traverser le monde en regardant. Je le comprends et je me comprends aussi.
Littérature et morale font-elles bon ménage ou c'est un couple dont il ne faut même pas s'occuper? Je pense notamment à la polémique Céline qui vient... de nouveau de se réallumer à l'occasion d'un livre sur l'antisémitisme de Céline. Je pense aussi, non pas au côté polémiste de Houellebecq, mais à la manière dont le dernier texte « Domination » de Michel Houellebecq a été interprété par certains comme un pamphlet anti-islamiste. D'ailleurs, Houellebecq a eu des procès devant les tribunaux.
Il a même été le premier. Hein.
Oui.
Et je pense qu'on a inventé le terme islamophobie presque sur mesure pour lui en 2001. Donc, que vous dire? Non, je pense que la littérature... il ne faut pas faire de la morale en lisant de la littérature. Je pense que c'est ça qu'il ne faut pas faire. Ça donne une mauvaise interprétation de l'art. La morale change, l'art aussi. Des fois, elle se croise et des fois, elle se superpose. Il faut essayer de ne pas faire comme s'ils étaient parallèles. Elles ne le seront jamais.
Alors justement, dans votre correspondance avec Michel Houellebecq, vous parlez beaucoup de Nietzsche, l'auteur de « Par-delà le bien et le mal ». Vous avez l'air de l'aimer tous les deux. Et faut-il attendre aujourd'hui de la littérature dans ces temps tourmentés que nous traversons? Non pas des leçons de morale, bien loin de cela, mais peut-être des repères, des éveils de conscience, des problématiques. Et là, je pense à vous, éditrice Teresa Crémisi, qui, quand vous êtes arrivée chez Flammarion, avez inventé une collection qui s'intitulait Café Voltaire et qui continue maintenant et qui nous alerte sur des problèmes de société pour trouver une sorte de champ de profondeur, de quête de sens dont nous avons terriblement besoin en ce moment.
Alors, d'abord, je voudrais rectifier sur Houellebecq. Non, je crois qu'il n'aime pas Nietzsche. Il n'aime pas Nietzsche. Alors, il vaudrait mieux le lui demander. C'est difficile. En ce moment, il n'a pas envie de parler de lui. Je crois que son choix, c'est Schopenhauer. Il
a même écrit un livre dessus.
Ben oui. Et,
très beau,
et
d'ailleurs.
Surtout Nietzsche, je pense Nietzsche l'exaspère, toutes les histoires de volonté de puissance, l'homme, la puissance, l'homme, etc. Ça l'énerve. Et il n'aime pas Nietzsche. Moi, je traverse des phases différentes. J'ai pas non plus une passion pour Nietzsche. Mais vous parliez là du travail d'éditeur dans le débat d'idées. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me passionne. Susciter des livres, bien écrits, qui mettent le doigt sur les plaies de notre temps, quelle qu'elle soit, c'est un très beau métier. C'est un très beau métier. Ça s'apparente à un certain journalisme. Ça me plaît beaucoup.
Alors, en même temps, vous avez une manière de dire votre vie avec ses accidents, avec ses suspensions, avec ses questionnements. Quand avez-vous su et dans quelles circonstances que vous étiez juive, Teresa Crémisi?
Alors, je crois que je le savais, puisque on ne m'avait pas baptisée, que j'étais dans une école religieuse. Tout ça était... J'étais d'une famille, six familles, on peut dire, avec deux seuls parents, donc deux parents naturellement et spontanément laïcs. Ils n'en faisaient pas non plus toute une histoire. D'ailleurs, ils n'ont fait jamais d'histoire de rien. Et quand j'ai voulu être baptisée, ben ils ont dit, ben oui, pourquoi pas. Je savais bien que de temps en temps, les mariages se passaient à la synagogue ou des choses comme ça. Mais puisque j'étais baptisée, je considérais que moi, j'étais chrétienne, catholique. J'avais pas bien compris la force culturelle de la religion juive. Je ne savais pas. Personne ne m'avait rien dit. Vous savez, quand vous êtes une enfant, que vous êtes seule, et qu'on parle de tout, mais pas de religion, pas de cela, vous êtes obligé d'inventer le monde à travers des petits signaux. Et moi, ces signaux, ils me disaient rien. Rien. Les religions ne m'ont jamais rien dit. Je suis peu sensible et pas du tout un esprit religieux.
Alors, qui vous l'a dit et pourquoi?
Ben, je l'ai compris dans le regard des autres. J'ai compris que non seulement tout était un peu bizarre, non seulement, comme disait Roberto Callas, inutile de la mettre dans une case, elle sera jamais à sa place, mais qu'en plus, il y avait cet élément très fort qui était la religion. Et je dois dire, à l'époque, aujourd'hui, la vie me donne tort, la vie que nous sommes en train de vivre. Je pensais que la religion, c'était accessoire par rapport aux autres choses importantes. On était bon ou pas bon, on était fort ou pas fort, prudent ou pas prudent. J'ai toujours cru aux quatre vertus cardinales. Mais bon, la religion ne marquait pas les hommes à ce point. Non seulement j'avais tort, mais j'étais aveugle.
Nous allons entendre la voix d'une autre personne avec qui vous avez beaucoup travaillé, dont vous avez été l'éditrice. Et puis ça arrive quelquefois qu'un éditeur, finalement, se lie avec un auteur et qu'une autre relation, qui n'est plus professionnelle mais qu'on peut appeler amitié, en naisse. C'est le cas de Jean-Christophe Ruffin que nous allons écouter.
Teresa, c'est mon éditeur depuis que j'écris des romans, c'est-à-dire 20 ans cette année. C'est elle qui m'a, on pourrait dire, découvert, en fait, en 1997. À l'époque, j'étais médecin, je suis toujours d'une certaine manière, mais enfin, je n'étais que médecin, si je puis dire. J'ai écrit un premier roman qui faisait 600 pages, qui n'intéressait pas grand monde, et c'est Teresa qui a vu ce qu'elle a jugé être la qualité de ce livre, et qui l'a fait entrer chez Gallimard. Teresa, c'est une sorte de, de radar. Avant l'invention du scanner ou du IRM, il y a eu Teresa. C'est-à-dire que vous lui mettez devant elle un manuscrit, un auteur, et elle sait ce qu'il y a dedans. Elle sait ce qu'il y a dans le manuscrit, puis elle sait aussi ce que l'auteur a dans le ventre. C'est quelqu'un qui a un jugement très très sûr sur les personnes et sur les œuvres aussi, qui a un très grand respect pour la création, une très grande admiration pour le processus créatif. D'ailleurs, elle est elle-même une créatrice, puisqu'elle a publié son premier roman récemment. Voilà, et c'est vraiment ça, son œil. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle soit qu'elle ait le même rapport avec tout le monde. Après, une fois qu'on a franchi ce cap, j'allais dire professionnel, certains deviennent plus intimes, plus amis, ce qui est mon cas, je suis ami avec elle depuis ses 20 ans. Voilà, ce n'est pas le cas de tous les auteurs, bien sûr, mais en tout cas, elle est très proche d'eux. Et je pense que Teresa, elle a cette qualité de jugement, cette sûreté de jugement, parce qu'elle a traversé beaucoup de mondes différents. C'est quelqu'un qui est né ailleurs, elle l'a raconté, qui a traversé des mondes, qui a ensuite vécu en Italie, qui a été élevé là-bas, qui est ensuite venu en France. Et à chaque fois qu'elle traverse un monde, elle s'imprègne d'une culture aussi, d'une différente. Elle a une grande empathie avec les cultures dans lesquelles elle a vécu. Et donc tout ça, ça lui donne un bagage extraordinairement riche qui lui permet de juger de la nouveauté. C'est difficile de juger de la nouveauté d'une œuvre, d'un texte. Et elle y arrive parce que justement, elle a cette épaisseur de vie derrière elle.
C'est la soirée des surprises, hein. Je rougis. Là, heureusement, personne ne me voit. Je rougis. Écoutez, alors c'est très exagéré, hein. Je ne suis pas un radar, un détecteur. Je patauge comme tout le monde. Mais c'est vrai que il arrive que travailler avec un auteur, le connaître, comprendre ses forces et ses fragilités, ben, c'est une aventure. Et une aventure absolument passionnante. Donc des fois, ça marche. Aujourd'hui, Jean-Christophe, depuis des années, n'est plus publié directement par moi. Mais c'est vrai, on est restés amis. Et quand il m'arrive de le rencontrer, ben, je suis joyeuse. C'est vrai.
C'est pas du tout ce que j'ai ressenti à la fin de la lecture de La Triomphante, Teresa Crémisi. J'ai ressenti au contraire une personnalité scindée, une petite fille ballottée d'exil en exil, une jeune femme qui essaye de croire en elle-même en se donnant des coups de taloche en permanence, une femme qui n'a jamais été finalement comblée par la vie, qui a eu beaucoup, beaucoup de choses dans son existence qu'il a fallu assumer, des choses douloureuses, et qui finalement, à la fin de sa vie, se demande toujours, et ça c'est peut-être une histoire de femme, si elle est légitime.
C'est vrai, j'ajouterais quelque chose dans ce tableau assez pessimiste, parce que c'est vrai que le problème de la légitimité, je l'ai senti très fort. À chaque fois, je me suis dit, mais est-ce que je suis légitime? Et j'ai fait comme si je l'étais. Mais je me suis beaucoup amusée dans la vie. Et pas parce que les autres m'ont aidé là-dessus, mais parce que j'avais un don pour rire et se me moquer de moi-même. Donc, oui, au fond, la vie n'a pas vraiment de sens. Nous allons vers les catastrophes, vers l'abîme. Mais tant qu'à faire, allons-y avec énergie et assez gaiement. Et ça, je le pense, j'apprécie les gens comme ça.
Il n'y a absolument rien à faire ici, à part décider le matin ce qu'on l'on va manger, midi et soir. Rien, rien. Je suis moi-même étonnée d'être si vite et sans effort passée d'une activité exagérée à une oisiveté totale une grande partie de l'année. C'est votre héroïne qui se décrit ainsi à l'âge de 80 balais. Elle est dans un petit port au bord de la mer, elle va nager avec ses palmes, elle va chercher les oursins comme quand elle était petite, elle regarde le coucher du soleil et finalement, il y a rien de mieux. C'est comme ça que vous voudriez terminer votre vie, Teresa Crémisi?
Je crois que c'est pas mal, non? C'est pas mal parce que ça enlève complètement les regrets, ça enlève les récriminations, les plaintes que je déteste. C'est pas mal. Des palmes, des oursins, le soleil, un peu de vent. Je suis très sensible au vent.
Et puis, j'ai oublié de vous féliciter, puisque je viens d'apprendre que vous avez une nouvelle vie. Décidément, les vies de Teresa sont nombreuses. C'est celle d'être présidente de l'Avance sur recette au Centre national de la cinématographie, c'est-à-dire un rôle très important, puisque c'est vous qui donnez ou non de l'argent aux projets des cinéastes.
Pas toute
qui
seule,
font
hein,
des projets.
Y a des commissions,
quand même. Oui, mais vous êtes la présidente.
Oui,
arrêtez vos histoires de légitimité. Et je viens d'apprendre que votre mandat était renouvelé. Donc, merci beaucoup, la présidente de La Triomphante.
Merci, Laura Adler.
Et ce soir, nous allons nous quitter en musique. Et pour vous, Teresa, nous avons choisi un chanteur que nous aimons beaucoup. Il s'appelle Albin de la Simone. Nous avons commencé avec Love de Diana Krall. On va se quitter avec Le Grand Amour.
Comme elle disait, elle dormait quand elle voulait. Ne travaillait jamais. Pareo noué dans le dos, des fruits, des fleurs et des oiseaux, le goût du sel sur la peau. Elle était belle, j'étais beau. sous un baldaquin de tulle, une bougie, le clair de lune, nos deux corps dans une bulle, le cœur et la fortune. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi ? On ne parlait jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais, elle m'enlaçait, elle dansait, je chantais en anglais, en javanais. Nu, sous mon tablier, je revivais, abandonné sous les baisers parfumés. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi ? On ne parlait jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. C'était l'amour, je m'y connais, jusqu'à ce jour de fin juillet. Elle souriait, mais je devinais, le vent avait tourné. Affolé par l'épouvantail, de quelle erreur monumentale. L'amour, le vrai, le beau, c'était barré au galop.
Le livre de Teresa Crémisi vient de paraître en folio, il s'intitule « La Triomphante ». Merci à Thierry Dupin, merci à Véronique Barnet qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission, préparée par Élodie Royer et Marine Beccarelli, avec à la technique ce soir l'adorable Kevin Pelot.